bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices des Radios Assivières, ici Nini Villegas. Je vous souhaite la bienvenue dans cet 12e épisode de notre podcast Drosera, les podcasts qui aiment les vivants. Les samedis 6 septembre 2025, j'ai eu la chance de participer à une soirée un peu particulière. Une découverte des chauves-souris proposée par les GMHL, le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin, et en partenariat aussi avec l'association Les Champs des Possibles. Ceci s'est déroulé à la salle des fêtes de la Villedieu. Après un temps en salle pour mieux comprendre la vie et les comportements de ces animaux mystérieux, nous sommes sortis à la nuit tombée. Grâce à des enregistreurs à ultrasons, nous avons pu capter et entendre les chiroptères, ces créatures de la nuit que l'on n'entend jamais à l'oreille nue. Dans ces reportages, je vous emmène avec moi au cœur de cette expérience immersive pour lever un peu les voiles sur ces animaux fascinants et pourtant si discrets.
Personnes qui ne savent pas ce que c'est ou qui ne connaissent pas. Moi je m'appelle Camille, je fais partie de l'association du Champ des Possibles, qui est une association d'expertise en écologie. Et du coup, avec cette association, on fait des suivis d'expertise en écologie, beaucoup sur les milieux humides, et notamment sur les araignées. Mais aussi depuis 4 ans maintenant, on accompagne les communes qui veulent faire des atlas de biodiversité communale. Donc un atlas de biodiversité communale, un ABC, c'est lorsqu'une commune veut mener des inventaires naturalistes sur sa commune, et souvent ça inclut un volet de sciences participatives avec les habitants et les habitantes. Et voilà. Et donc là, nous, notre asso, jusque dans 2 ans, donc il reste encore 2 années, on mène un ABC à Follamontagne et à Villedieu, et aussi à Saint-Martin-Château. Ça, c'est mon collègue Johan qui s'en occupe. Voilà, donc on fait des inventaires participatifs sur les lichens, sur les loges de pique noire, on mène des inventaires sur les macro-invertébrés aquatiques, donc tout ce qui est larves dans de l'eau douce, pour faire simple. On fait aussi des protocoles oiseaux, on fait aussi un POP amphibien, un protocole de suivi amphibien, etc. etc. Et on fait des études sur les chiroptères, les chauves-souris. Et du coup, là, l'animation elle est un peu particulière cette fois-ci. Puisque c'est pas moi qui vais la faire, moi je vais apprendre et ma soeur et vous, mais c'est Roman qui bosse au GMHL, et voilà.
Donc du coup, est-ce que tout le monde connaît le GMHL? J'imagine que...
Ah si, quand même, souvent on ne connaît pas. Donc c'est le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin. Donc pour l'étude des mammifères terrestres et volants, et les reptiles et les amphibiens, tout simplement. Donc on intervient sur les 3 départements. Et cette étude, cette animation, pardon, elle se déroule dans le cadre d'une étude au niveau de la Nouvelle-Aquitaine sur les vieux arbres, et donc toute la biodiversité aussi qui en découle. Pour commencer très simplement, est-ce que tout le monde a déjà vu des chauves-souris? Je pense que oui, au moins aperçu. Et est-ce que vous savez un peu définir une chauve-souris? Est-ce que pour vous, déjà, c'est un champignon, un végétal? C'est plutôt facile comme question. Ben oui, effectivement, c'est un animal. Hein. Là aussi, c'est plutôt facile. Est-ce que les chauves-souris sont des oiseaux, des mammifères, des reptiles, des amphibiens? Bravo, des mammifères. Donc les mammifères, tout simplement, parce que donc, notre chauve-souris, c'est un animal qui a des poils, et c'est aussi un animal qui va allaiter son petit qui a des mamelles. Donc comme nous, c'est un mammifère. Et bien, malgré que ce soit un mammifère qui vole, ce n'est pas un oiseau. Donc les chauves-souris, qu'on appelle aussi chiroptères, de leur nom scientifique. Donc chiroptère, ça vient du grec, chiro, la main, et ptère, qui vole. Donc tout simplement, parce que les chauves-souris, c'est les mains qui se sont développées, donc avec les doigts et avec la peau entre chaque doigt, qui leur permet de voler, et donc qui volent avec les mains. C'est pas pas du tout comme les souris, on est plutôt sur une stratégie où la mère va faire un petit par an et elle va vraiment l'éduquer en fait et lui apprendre, bah, prendre le temps de le voir grandir, de lui apprendre les bons points pour aller chasser, les bons endroits pour aller dormir aussi, et puis bah, les différentes choses à connaître de la vie, tout simplement. Mais du coup, on peut aussi avoir des cas de jumeaux, et voire même de triplés dans les cas plus rares, donc, comme chez nous. Et on a deux espèces, donc, enfin deux genres d'espèces, donc les pipistrelles et les noctules, qui, chez elles, on observe un peu plus de cas de jumelage. Voilà. Et après, il peut arriver parfois que sur des étés où la météo est un peu aléatoire, où elles ont du mal à bien s'alimenter et donc à produire suffisamment de lait pour nourrir les deux petits. Et donc, dans ces cas-là, il peut arriver qu'elle en abandonne un. Et c'est souvent des mâles. Désolée. Mais voilà. Alors, est-ce que Dracula existe ?
Oui, il y a des chauves-souris.
Mais oui, évidemment. Donc, on a trois espèces. Nous, on n'en a pas, mais il y a trois espèces de chauves-souris donc, vampires qui vont donc boire du sang. Donc, en fait, elles vont, par exemple, mordre un bovin ou d'autres mammifères. Et donc là, elles vont avoir une enzyme dans la saliva qui va faire que l'animal mordu va saigner en fait en continu. Et elle va tout simplement laper les petites gouttes de sang. C'est mignon. Donc trois espèces de chauves-souris vampires. Alors je ne tiens jamais les noms, mais en tout cas, elles vivent donc, en Amérique. Bon, ça, on en a parlé du coup, c'est facile. Non, c'est pas facile. Ah oui, pardon, oui. Donc effectivement, les chauves-souris ne sont pas bâtisseuses, elles ne vont pas construire de nid.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu les différentes espèces de chauves-souris.
Oui.
Je connais les pistrelles et les rhinolophes.
Bah, c'est déjà pas mal.
Et les murins.
Ah ouais, bah, voilà, c'est top.
Grand murin. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on a, nous, en fait, à la maison.
Ah,
oui.
Intéressant.
Voilà.
Donc là, donc, on a des petits rhinolophes. Donc les rhinolophes, ça va être des espèces qui vont se suspendre. C'est qu'en fait, on les voit facilement parce que justement, elles se suspendent. Elles ne sont pas cachées dans des petits recoins. Donc c'est, voilà, elles vont se suspendre par les pattes et souvent, elles vont s'envelopper aussi dans leurs ailes. Donc ça fait ces petits cocons pour faire bien. Donc là, faut imaginer donc suspendu et parfois on peut voir les petits accrochés soit sur le ventre de la maman ou soit à côté aussi suspendus, qui s'entraînent avec leurs ailes. Et là à côté, on a une colonie donc de sérotines communes qui elles sont cachées là bah, entre deux poutres. Donc là souvent on en voit quelques-unes. En fait, il y en a bien plus derrière.
Oui. Et la pipistrelle, elle n'est pas suspendue par les pattes ?
Alors généralement, elle va plutôt se cacher plus comme la sérotine.
D'accord.
Ouais. Ça peut arriver que des fois, elle se pose sur les murs et qu'on en aperçoive, mais généralement, c'est plutôt fissuricole.
Ok.
Oui.
J'ai une petite question. C'est quand il y a des jumeaux ou des triplés, comment elles font pour attraper les petits ?
Bah alors, du coup, ça accouche la tête en bas,
ouais.
Déjà.
Oui. Elles attrapent avec leurs ailes, c'est ça?
Mais comment elles font? J'ai jamais pu y assister personnellement, mais du coup, quand il y en a un par exemple qui naît, donc il y a le premier qui arrive, donc elle l'attrape avec ses mains, exactement comme ça, elle va couper le cordon ombilical. Et après, donc, le petit, lui, il a instinctivement le réflexe de s'accrocher à la mère en fait. Donc après, j'imagine que le deuxième, bah, il suit et il retourne le monde.
Ok, d'accord.
Voilà. Mais du coup, les chauves-souris, très rapidement, vont avoir le réflexe de s'accrocher avec leurs griffes et de se suspendre. Puisque du coup, pour elle, c'est autant d'efforts de suspendre que pour nous de s'asseoir sur une chaise. C'est vraiment un système de tendons et de muscles qui va être traversé par rapport à nous. Donc voilà, elle s'accroche et ça demande très peu d'efforts. Mais par exemple, si on retrouve des chauves-souris qui tombent et qui sont mortes, malheureusement, c'est souvent des juvéniles. Parce qu'ils ne seront pas forcément accrochés à la poutre ou quoi, et ils peuvent tomber. Et mourir, voilà. Et que parfois, les adultes, au contraire, on peut voir une chauve-souris qui est toujours suspendue, mais malheureusement, qui est morte. Voilà. Mais même morte, elle reste accrochée. Voilà, ça peut être parfois surprenant. Bon, revenons à des tournures plus gaies. Donc, pour voir un peu les extrêmes qu'on a dans le monde, c'est deux espèces que nous n'avons pas ici, hein, malheureusement, mais c'est quand même assez incroyable... les extrêmes, donc 1m80 d'envergure, je fais 1m80, hein,
C'est énorme. Et puis la chauve-souris bourdon, donc c'est aussi la chauve-souris Kitty. C'est la même qu'on retrouve en Thaïlande. Et là, cette fois-ci, du plus grand au plus petit, chez nous, même en Limousin et en France métropole. Donc, la grande noctule, qui est la plus grande chauve-souris d'Europe, et la pipistrelle pygmée, qui pour coup est la plus petite. Donc, on passe de presque 50 cm d'envergure à seulement 18-20. Et donc, la grande noctule, pour l'anecdote, elle est quand même balèze parce qu'elle peut carrément manger des petits passereaux. Lors de la migration, donc de façon un peu opportuniste, mais elle peut par exemple manger des rouges-gorges, voire même d'autres chauves-souris.
Elle attaque
des oiseaux vivants ou... Ah oui, vivants. Oui. Ah oui, ah bah, les chauves-souris sont des prédateurs. C'est... voilà, donc la grande noctule, c'est une espèce de haut vol, donc qui va voler haut, et qui va avoir en fait un comportement assez opportuniste dans les choix de ses habitats de chasse, qui va repérer des endroits où soit les insectes vont pulluler, ou par exemple des passages de petits oiseaux migrateurs, et il va pouvoir aller taper dedans et m'en faire. Alors du coup, on en a déjà parlé. La nourriture des chauves-souris, donc en métropole, chez nous, hormis cette exception de la grande noctule, toutes les chauves-souris que l'on a sont insectivores. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas trop de diversité. Après, au niveau mondial, comme avec toutes les espèces qu'on a vues avant, il y a aussi des chauves-souris. Donc, on a vu qu'ils peuvent se nourrir de sang, mais aussi de fruits, de nectar, voire même d'amphibiens, de poissons. Alors nous, on a des chauves-souris aussi de façon pareille opportuniste qui peuvent aussi attraper des petits poissons à la surface. Et c'est en fait les petites exceptions qu'on a donc pour les poissons ou les passereaux, même les autres chauves-souris, c'est vraiment de l'opportunisme. Quoi. On ne peut pas avoir des techniques de chasse vraiment pour cibler cette niche-là et on ne peut pas se nourrir exclusivement de ça. Ensuite, on va avoir des espèces qui vont être plus ou moins spécifiques à des groupes d'insectes. Et donc, ils vont avoir des adaptations particulières, mais ça, on verra un peu plus tout à l'heure. Donc, évidemment, des rôles importants pour la biodiversité, puisque une chauve-souris, en une seule nuit, ça peut manger plus d'un tiers de son poids en insectes. Donc, il y a un grand rôle de régulation. Et donc, par exemple, toujours en Guyane, les chauves-souris vont aussi participer à la pollinisation en butinant ou en dispersant donc, les graines. Alors, une année de chauve-souris. Donc, est-ce que vous connaissez un peu le cycle de vie de la chauve-souris ou pas ? Pas de souci.
L'hiver, ça dort.
L'hiver, ça dort, exactement. Donc, l'hiver, il n'y a pas beaucoup d'insectes. Comme il n'y a pas beaucoup de ressources alimentaires, faut trouver une solution. Donc, dans la nature, il y a deux techniques. Soit on va voir ailleurs, donc on migre, ou soit on reste sur place, mais on va se mettre en léthargie, donc on va hiberner. Donc la léthargie chez les chauves-souris, ça veut dire que ces pulsations cardiaques vont passer de 600 à 100 seulement. Elle va respirer une seule fois toutes les 10 minutes. Et sa température corporelle, qui normalement est un peu comme la nôtre à 38 degrés, elle va descendre à celle du milieu. Donc, par exemple, une chauve-souris qui va hiberner dans une grotte, la température va être autour de peut-être 11-12 degrés. Eh bien, ça va être pareil pour la chauve-souris. Elle va descendre aussi bas. Ce qui est quand même plutôt impressionnant. Donc, nos chauves-souris, elles ont une réserve de graisse qui se trouve à la base de la nuque, la graisse brune. Et c'est ça qui va leur permettre de tenir tout l'hiver comme ça. Donc, c'est une période qui est quand même très sensible pour les chauves-souris, puisqu'il faut imaginer que chaque phase de réveil, pour elles, ça va être une grosse consommation d'énergie. Mais pour se réveiller, pour se réenclencher, elle va se réveiller, il n'y aura pas forcément de la nourriture à proximité, pas forcément d'eau non plus. Et ensuite, il faudra se remettre en léthargie. Donc, s'il y a plusieurs réveils comme ça dans l'hiver, ça peut les tuer.
Et du coup, quand elles se trouvent dans un petit abri, dans un bâtiment plus chauffé, elles ne se mettent pas en hibernation ou...
Oui, non, en fait, non, le fait vraiment l'hiver, on va avoir des gîtes qui vont être adaptés pour passer l'hiver. Donc, c'est généralement des endroits qui sont bien humides et frais et calmes aussi. Et après, si bah, elles se réveillent, qu'elles se rendent compte que c'est pas adapté, qu'elles sont trop dérangées, elles vont partir ailleurs. Mmh. En fait, souvent, elles ont un réseau de gîtes autour et elles peuvent les utiliser, se déplacer en cas de dérangement ou de prédation même. Donc, voilà pour l'hiver à peu près. Ensuite arrive le printemps. Oui, pardon.
En fonction des espèces qu'on retrouve, parce qu'il y a plusieurs espèces qui peuvent être au même endroit l'hiver.
Oui.
En fonction de ces espèces-là, est-ce qu'elles hibernent, chaque espèce hiberne vraiment en même temps ou est-ce qu'il y a des décalages?
Ça, il n'y a pas vraiment de règle fixe. En fait, parfois on fait des comptages à l'automne, donc on peut faire des comptages en sortie de gîte. Donc là, on se met à la sortie de leur gîte, de l'endroit où elle passe la journée. On va compter le nombre de bêtes qui sortent. Et ensuite, on rentre compter les jeunes ou voir s'il reste encore du monde à l'intérieur. Mmh. Donc, ça nous servait de faire ça à l'automne et de se rendre compte qu'il y avait des animaux qui étaient déjà en léthargie, qui étaient déjà entrés en hibernation, alors qu'une heure avant, on a vu toutes leurs copines sortir chasser et très actives. Mmh. Donc là-dessus, finalement, il n'y a pas de règle fixe où d'un coup, elles vont toutes hiberner. Ça doit être assez progressif. Et c'est surtout, en fait, par rapport à la météo, aux premières gelées... Et pareil, au printemps, on va faire des suivis où on a déjà donc, des espèces qui sont déjà très actives. Et finalement, on rentre dans la cavité et on en voit d'autres qui sont encore en train de pioncer. Elles n'ont pas compris que c'était parti. Chaque chauve-souris, selon ses habitats et selon son type de proie, elle va avoir un système radar qui va être adapté à ça. Donc on va avoir des chauves-souris qui vont émettre, qui vont avoir des modulations de cris qui vont leur permettre d'avoir des informations très proches ou alors très loin, avec plus ou moins de variations. Et surtout, chaque chauve-souris va un peu avoir sa gamme de fréquences sur laquelle elle va émettre. Donc par exemple, les pipistrelles, elles vont être comprises entre, on va dire... 38 jusqu'à 53 kHz. Et là, on va retrouver les différentes espèces de pipistrelles. Donc, on va avoir la pipistrelle de Cule, la pipistrelle de Natusius, la pipistrelle commune et la pipistrelle pygmée. Et ensuite, donc, à la fois selon la fréquence à laquelle je vais entendre ma chauve-souris associée à la modulation que je vais entendre, va pouvoir me permettre de savoir quelle espèce il s'agit. Ensuite, la chauve-souris, selon ce qu'elle est en train de faire, donc soit elle est en train de se déplacer d'un milieu à un autre, tranquillement, tout va bien, ou alors elle est en chasse, et donc elle va vouloir avoir des informations rapidement, parce que son moustique qui se déplace, elle ne va pas avoir les mêmes rythmes non plus d'émission et les mêmes sonorités. Donc ça, tout ça, ça va être des critères acoustiques qu'on va avoir et qu'on va réussir à appréhender sur le terrain. Ouais. Alors, je ne sais pas si on va attendre à ça. Au max. Donc là, j'utilise le système de l'écoute active. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu voler.
Je l'ai vu me casser, mais tout à l'heure.
On va essayer de se déplacer un petit peu, voir ce que ça donne. Et donc là, en gros, donc ça s'appelle l'hétérodyne. Donc ça me permet de capter en temps réel ce qui se passe, donc ça capte les ultrasons et ça les transforme en audibles. Il y a un autre système aussi qu'on utilise beaucoup qui est l'expansion de temps. Donc ça multiplie le temps et ça permet comme ça que les ultrasons qu'on n'entend pas normalement, ça devient plus grave et donc qu'on peut entendre. Donc souvent on multiplie le temps par 10 et là on a beaucoup de critères acoustiques pour identifier les espèces. Le souci quand on prend l'expansion de temps, c'est que très rapidement on est dans le passé. Donc c'est compliqué de suivre ce qui se passe. Donc ça c'est un outil qu'on va surtout utiliser a posteriori de la phase terrain, au bureau quand on va faire les analyses. Une pipistrelle qui vient de passer. Pipistrelle commune. Ah oh là là. Ah bah là il y a un gîte pas loin. Donc là, voilà, c'est un cas typique où je ne sais pas ce que c'est. Donc la pirouette, c'est-à-dire c'est une sérotule. Donc c'est une sérotine ou une noctule. Voilà, la sérotule. Mais qui peut très rapidement avoir des comportements aussi discriminants à l'acoustique. Donc là, c'est passé derrière. conséquent, qui donne un chiffre ?
30 ans.
C'est pas mal. Ouais, c'est des pour le œnologue, je crois, le grand œnologue, on avait un record connu à 32 ans, je crois. Et mais le record est, il me semble, détenu par le Murin Brandt à plus de 40 ans. C'est, mais après, c'est assez variable aussi d'une espèce à l'autre. Pour les noctules, il me semble qu'on est plus proche de 10 ans. Mais on est dans tous les cas sur des belles longévités quand même pour ces animaux. Voilà. Et ensuite, la maturité sexuelle, ça peut être... Là, si c'est variable selon les espèces, c'est un peu la réponse universelle, mais soit c'est dès l'année suivante de sa naissance, ou sinon c'est 2 ou 3 ans qui suit sa naissance où elle peut se reproduire. Voilà. Donc voilà, la chauve-souris passe l'hiver, revient les beaux jours, et donc là, elle va refaire son stock de graisse, reprendre des forces, et surtout, elle va se déplacer vers les gîtes d'été. Donc l'hiver, elle a besoin d'une forte hygrométrie, d'une température stable, et pas trop élevée, et de calme, et l'été, elle va chercher plutôt des gîtes où il va faire très chaud, et toujours de tranquillité, pour mettre bas les petits et les élever. Donc on va vraiment avoir des gîtes d'hiver et des gîtes d'été, et entre deux on va avoir les gîtes de transit, qui sont tout simplement en fait les gîtes de transit pour passer donc le printemps ou l'automne, et en fait ça leur sert d'étape pour pas faire du gîte d'été directement au gîte d'hiver. Donc c'est aussi un petit réseau de gîtes extrêmement important pour assurer la continuité entre tous ces habitats.
Voilà. mais comment est-ce que vous savez les gîtes,
les parfois on trouve, mais c'est il y a beaucoup de gîtes qu'on ne connaît pas encore, et après on compte sur les signalements, sur on peut faire des recherches, donc on peut faire des missions donc de capture, donc sur des terrains où grâce à l'acoustique on peut savoir s'il y a des gros terrains de chasse, s'il y a des grosses activités, et donc là on peut faire des captures et les équiper avec des systèmes de radiopistage en fait, et donc la chauve-souris repart, et nous ensuite on a des petites antennes qui nous permettent de retrouver le signal, et comme ça on peut retrouver des gîtes, des colonies.
Et est-ce que vous créez des cartographies avec tous ces repérages?
Oui, absolument, oui. Et ces antennes vont lire les puces, donc dès que la chauve-souris passe dedans, et ben on sait qu'elle est passée à telle heure, à tel endroit. Et ensuite, l'hiver, on a cette fois-ci des lecteurs qui sont portables, et on va pouvoir scanner les chauves-souris, voilà, comme une super-U. Oui. Enfin, ça bip pas, on enlève le bip quand même. Et comme ça, on peut savoir qui est où et connaître les échanges. Voilà. Et donc, tous les ans, on fait des comptages hivernaux, estivaux, et on fait toujours appel à des bénévoles si ça vous intéresse. Voilà.
En été,
on est rendu au printemps.
Donc printemps, ça se déplace, ça arrive ensuite aux gîtes estivaux. Donc on parle des différences d'espèces par rapport au rythme de vie. On va avoir un peu deux groupes, on va dire. On a les espèces qui vont être précoces, donc qui vont mettre bas plus tôt, et les espèces un peu plus tardives qui vont mettre bas un peu plus tard. Donc elles arrivent dans leur gîte d'été. Là, c'est aussi variable selon les espèces. Il y a certaines espèces, comme on le disait tout à l'heure, elles vont apprécier les combles bien chaudes. Il y en a d'autres qui vont être cavernicoles toute l'année et qui donc vont rester dans les cavités toute l'année. Même si elles peuvent aller dans une cavité l'hiver et dans une autre cavité l'été. Ça, c'est possible aussi. Parce que dans chaque grotte, on ne va pas avoir exactement les mêmes conditions. Donc ça varie aussi. Ça arrive très souvent qu'il y ait plusieurs espèces ensemble. Par exemple, le grand rhinolophe, on le retrouve très souvent avec le murin oreiller chancré. On peut aussi retrouver le grand murin. Ensuite, on peut très souvent, dans les espèces cavernicoles, retrouver le minoptère de Schreiber avec le rhinolophe urial. Voilà, c'est souvent, on a des paires comme ça qui se forment. Mais on peut aussi avoir une espèce toute seule, sans souci. Donc, mise bas du petit, la tête en bas. Voilà, donc cette patte de la gravité. Donc là, la durée de gestation aussi, c'est extrêmement variable selon la météo. Donc ça peut aller de 40 à 70 jours, selon l'espèce et selon les conditions météo. C'est hyper variable. Et ensuite, le petit, en moyenne, il est volant en l'espace de 20 à 30 jours.
Et le petit, il arrive juillet, août
Alors, voilà, donc là, pour les espèces précoces, ça va arriver dès la mi-juin, fin juillet. toujours sauf dans la météo. Ouais. Et ensuite, pour les espèces tardives, ça va s'étaler jusqu'à mi-juillet, fin juillet. Enfin, même fin juillet, ça fait déjà un peu tard, mais plutôt c'est mi-juillet.
Bah, c'est
assez proche quand même. Ouais. Voilà. Ensuite, les jeunes sont éduqués par la mère. Au fur et à mesure, ils vont apprendre à voler, ils s'entraînent au gîte, ils se tirent les ailes. Et ensuite, la mère va lui montrer tous les petits points sympas autour du gîte. Et ensuite, ils seront volants et quasi autonomes.
Voilà qui conclut ces premiers épisodes des Drosera. J'espère que cette immersion dans un univers des chauves-souris vous aura donné envie de regarder la nuit autrement, peut-être d'étendre l'oreille lors de vos prochaines balades crépusculaires. Un grand merci au GMHL et à l'association Les Chambres des Possibles pour cette soirée riche en découvertes et à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre Drosera pour les prochaines aventures. À très bientôt pour un voyage au cœur du vivant.